Donc bienvenue à l'Espace Mendès France, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de cette maison. Vous savez que nous sommes sous l'égide cette semaine de la fête de la science que nous avons lancée hier avec Madame la préfète de région et le vice-président de la région en charge de la recherche. Donc bienvenue à l'Espace Mendès France. Donc nous sommes sous l'égide de la fête de la science, mais également de notre cycle autour des questions liées au cerveau. Donc je voulais saluer la présence de Mohamed Jaber, notre ami, qui nous a beaucoup aidé depuis pratiquement 2 ans, et c'est pas fini, hein, puisque le deuxième volet de nos expositions sur le cerveau commence dans quelques jours autour de la question des addictions. Alors vous savez que l'Espace Mendès France est un lieu de culture scientifique dédié au grand public, mais qui a pris l'habitude depuis une dizaine d'années, autour de son pôle sciences et société et histoire des sciences que Anne Bonnefoy anime avec beaucoup de talent dans cette maison, de faire ces journées d'études, ces petits formats, ce que j'appelle des formats de contenu. Et dans cette salle, depuis 10 ans, il s'est passé des choses extraordinaires, souvent en avance sur leur temps, autour de l'ADN et des hominidés, autour des nanotechnologies, autour de la chimie verte, autour du développement durable dès 2001, à un moment où on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, vous allez être amené à la fois à écouter, mais aussi à contribuer. L'ensemble des propos sont enregistrés, seront sur le site internet de l'Espace Mendès France en podcast, mais également en fonction des échanges que nous aurons ensemble. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Jean-Luc Terradillos, qui est le rédacteur en chef de la revue L'Actualité Poitou-Charentes. Et cette revue, qui à la fois par son édition, mais aussi par les informations qui sont mises en ligne, permet de retranscrire des discussions qui ont un lien étroit avec la recherche. Je finirai par là en disant qu'il n'y a pas de culture scientifique sans recherche et il n'y a pas de recherche sans chercheurs. C'est ce que vous êtes. Et moi, je crois beaucoup à la diffusion des informations scientifiques auprès de nos publics par le biais de ce qui se passe dans le labo, là où se fabrique la connaissance. Donc c'est pour ça que je voulais redire le lien privilégié qu'on a avec Mohamed Jaber et le travail qu'on fait sur le cerveau et sur le reste d'ailleurs, puisqu'on a des connexions sur d'autres types de manifestations. On a commencé il y a longtemps ensemble avec la semaine du cerveau, il y a une dizaine d'années. Donc ce que je voulais dire simplement, c'est que ce que vous dites aujourd'hui, à un moment ou à un autre, va entrer sur la place publique. Et nous faisons partie des structures qui souhaitons donner à la médiation scientifique une dimension de qualité. Nous sommes des passeurs et des transmetteurs, pas des compilateurs. Donc je tiens beaucoup à cet aspect-là de notre mission, parce qu'il y a trop de choses qui sont dans les médias, qui sont des à peu près, souvent des rumeurs, souvent des on-dit. Regardez ce qui s'est passé autour d'un médicament encore ce matin, et on se rend compte qu'avec 3 interviews sur 3 médias différents en 2 heures, on a 3 avis complètement différents. Donc on voit bien que nos concitoyens ont largement le droit de se retrouver démunis et perdus par rapport à l'information scientifique. Le thème du cerveau, des neurosciences, des sciences cognitives est au cœur de nos sociétés. Donc je crois que ce que vous direz aujourd'hui, ce que nous dirons l'an prochain sur la question des addictions, intègre un débat beaucoup plus large avec une grande demande de la part de la société, et l'Espace Mendès France ici en région essaie de répondre à cette demande. Donc merci de votre présence. On sait que tout au long de la journée on a de nouveaux intervenants et contributeurs qui vont arriver. Merci de vos échanges, et encore une fois, sachez que nous sommes très attachés à la diffusion de ce qui sera dit aujourd'hui. Voilà, donc Jean-Claude Dupont, c'est à vous. Merci d'être présent. Je crois que Anne va faire un petit point sur le programme.
Non, je vais présenter Jean-Claude, dire 2 mots.
Voilà. Merci Anne. Merci pour la journée. Et puis, bonne journée à tous et à tous.
Merci, voilà. Allez, vas-y, Anne. Merci Didier, merci à tous d'être là. Je tenais, les remerciements, on n'arrête pas, mais quand c'est du fond du cœur, c'est bien. Donc je voulais remercier Jean-Claude Dupont et Mohamed Jaber. C'est vrai que j'ai eu l'idée de faire cette journée d'études sur le cerveau, en associant, comme on le fait toujours dans le pôle d'histoire des sciences et des techniques, les différentes disciplines. Donc je trouve très important, et Didier l'a dit, l'articulation entre aussi l'histoire des sciences et la science dite dure. Ça, Mohamed, tu ne seras pas content que je dise ça. Mais voilà, tu as raison. Donc ça fait partie aussi de l'articulation qu'on essaye de mettre en place à chaque fois qu'on organise des journées d'études. Ça veut dire faire en sorte que les disciplines se rencontrent et s'enrichissent les unes les autres. Donc Jean-Claude Dupont a été le responsable de l'organisation de la première partie de la journée. Je le remercie beaucoup. Je les ai tous un peu ennuyés. avec Memel. Et puis Mohamed Jaber a dit oui, comme d'habitude, aussi à l'organisation de cette journée, en faisant venir ses amis. Et, moi, et Jean-Claude a fait venir aussi des amis de la communauté d'histoire des sciences qui sont arrivés hier soir. Je le remercie. Je remercie Jean-Gaël et Céline d'être là. Donc Jean-Claude, j'ajoute aussi que Jean-Claude Dupont va être récidiviste puisqu'on organise un forum sur les médicaments. Il va faire la conférence d'introduction sur l'histoire des médicaments. Les gens ont beaucoup de personnes, de chercheurs, ce qu'on ne sait pas, ont beaucoup de capacité à intervenir dans des domaines très différents. Et nous, on tient toujours absolument qu'on organise quelque chose, à commencer par contextualiser le sujet. C'est très important. Donc Jean-Claude Dupont, tu es professeur des universités. Tu es philosophe et aussi pharmacien. Tu as un doctorat en pharmacie, doctorat en biochimie, doctorat en histoire des sciences et des techniques. Tu es président de la Société d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie qui s'intitule la Chaise-Vie. On a organisé il y a quelques années une journée d'ailleurs Chaise-Vie ici. Et puis on avait organisé un grand colloque aussi, la Société française d'histoire des sciences et des techniques, dont je suis membre honorifique, pour dire ça d'une manière assez drôle. Donc on organise souvent des colloques ensemble, on se connaît bien. Voilà, donc tu es aussi rédacteur en chef de la revue d'Histoire des sciences, membre du comité éditorial de différentes revues nationales et internationales, des ouvrages Histoire de la neurotransmission, Charcot, la neurotransmission, du feuillet au gène, une histoire des concepts de l'embryologie moderne, l'invention du médicament, une histoire des théories du remède, histoire de la mémoire. Et tu as dirigé cet ouvrage avec Céline Chériqui ici présente, qui s'intitule « Les querelles du cerveau, comment furent inventées les neurosciences ». Donc je vous remercie tous, comme je viens de le dire. Donc le titre de ta présentation est inscrit sur le tableau, Histoire des représentations du cerveau. Nous t'écoutons avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Claude.
Bien, merci, Anne. Et je tiens à souligner que depuis de nombreuses années, Anne fait beaucoup pour l'histoire des sciences en France. Et en France, et puis en particulier à Poitiers, bien sûr. Et merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette journée sur le cerveau. Et merci à Mohamed Jaber aussi d'avoir co-organisé donc cette journée. Donc mon propos est très modeste. Le titre « Histoire des représentations du cerveau » ne laisse pas présager de cette modestie. Mais en réalité, ce que je voudrais retracer avec vous ce matin, c'est une histoire des représentations plutôt que des modèles. Alors, il y a une distinction qu'on fait habituellement en sciences humaines entre les représentations et les modèles. Ça commence de manière un petit peu austère, mais j'essaie d'expliquer le titre, une histoire des représentations du cerveau et pas des modèles. Une représentation, c'est simplement une idée que l'on se fait du cerveau, que le public se fait, que les scientifiques se font du cerveau, possède des déterminants culturels, qui est en fait lié au contexte des idées, le contexte du temps. Alors qu'un modèle, une notion qui est plus épistémologique. Un modèle de cerveau, par exemple, est issu toujours de procédures savantes d'exploration, donc d'expérimentation, par exemple, chez l'homme, chez l'animal. L'homme et l'animal, c'est aussi le thème de la journée. Alors, voilà, donc on a une notion, au fond, qui est assez anthropologique, assez commune, une idée que l'on se fait. Et puis, il y a le modèle, qui est une notion épistémologique, scientifique. Alors, en réalité, les modèles peuvent générer des représentations, c'est-à-dire qu'on a dans les médias, par exemple, des représentations du cerveau qui sont issues de modèles scientifiques, qui ont été donc élaborés en fait au laboratoire, hein, c'est ça. Et puis, les représentations peuvent précéder aussi les modèles, c'est-à-dire que bien avant les procédures d'exploration savante du cerveau, telles qu'on les connaît au XXe siècle, par exemple, il y a eu des représentations du cerveau. donc des idées que l'on s'est fait du cerveau. Et c'est un peu l'histoire de ces idées que l'on s'est fait du cerveau que je voudrais retracer ici. Effectivement, les représentations du cerveau vont varier au cours du temps. Alors la première représentation, donc on va s'arrêter sur quelques-unes de ces représentations. Une des premières représentations, dans le monde occidental tout au moins, c'est la représentation galénique, c'est-à-dire du médecin galien, l'idée que se fait le médecin galien, second siècle après Jésus-Christ, du cerveau. Ensuite, on envisagera les représentations cellulaires. Le mot cellulaire ne doit pas tromper. Cellulaire vient de cellula, qui fait référence aux cellules de moine. Donc c'est une vision, on va voir, compartimentée du cerveau. Les représentations anatomiques, qui se développent à la Renaissance, principalement. Les représentations physiologiques, au XVIIIe, au XVIIe, puis au XVIIIe, qui commencent certainement avec Descartes. La grande affaire du XIXe siècle, la compétition, en quelque sorte, entre deux représentations, localisées et délocalisées. Les représentations sensorimotrices, là on approche, j'allais dire, des représentations actuelles, représentations sensorimotrices à la fin du 19e. Les représentations électriques chimiques, ça c'est typiquement 20e. Et puis les représentations connexionnistes, qui sans doute dominent aujourd'hui. Alors voilà, je ne vais pas en détail expliquer chaque représentation, mais vous donner un aperçu un petit peu de la transition, de l'évolution de ces représentations. Alors oui, c'est ce que je disais, il existe aussi souvent des conflits entre les représentations, entre les modèles. Par exemple, délocalisé, localisé, électrique et chimique. Il n'est pas équivalent d'adopter, et gratuit, il n'est pas sans effet d'adopter, par exemple, une représentation électrique, une représentation chimique. La question se pose au cours des années 70. Parce que l'enjeu, comme on va le voir, est l'adoption d'une représentation électrique ou chimique de la machine cérébrale, ce qui correspond évidemment à un travail soit des électrophysiologistes, soit au laboratoire d'électrophysiologie, soit au laboratoire de biochimie, de neurochimie, et en 70, alors vous allez me dire aujourd'hui, c'est à la fois une machine électrique, chimique, oui, aujourd'hui, mais dans les années, jusqu'aux années 70, la question est beaucoup plus exclusive, et il y a une querelle de priorité, un petit peu à la manière de Thomas Kuhn, entre les communautés scientifiques. Alors, donc, je viens à la présentation galénique. Alors, chez Galien, les facultés ne sont pas localisées dans des zones particulières du cerveau. Il distingue des zones qui seraient plutôt sensitives. Là, on est au second siècle après Jésus-Christ. Galien, c'est la somme de la médecine antique. Son œuvre, c'est un peu ça. Et avec un apport spécifique, notamment expérimental. Alors, il distingue des zones plutôt sensitives et des zones plutôt motrices selon la consistance dure ou molle du cerveau. Les zones les plus dures étant plutôt les zones motrices, dit-il. Alors que les zones les plus molles, comme elles doivent recevoir les impressions du monde extérieur, elles sont plutôt sensitives. Bon, ceci est assez vague. Ce qu'il faut retenir chez Galien, c'est que c'est une représentation physiologique. C'est-à-dire que le cerveau est essentiellement, pour Galien, donc dans la représentation antique, hein, d'une façon globale, dont il est le représentant, le cerveau élabore le pneuma psychique. Donc il est la source d'élaboration d'un pneuma psychique, qui est une sorte d'entité semi-matérielle qui provient de l'âme, et qui se répand à travers le corps, qui est censé l'animer, hein, l'anima. Donc, le cerveau joue un rôle central. Ce pneuma remplit les nerfs, il imprègne les nerfs et il permet la sensibilité, le mouvement, etc. Alors, à droite, vous avez une représentation, qui n'est pas une représentation de Galien, on n'a pas de représentation de l'époque, mais c'est d'une représentation renaissante, où vous avez en haut cette petite, ce petit élément là. C'est ce qu'on appelle le réseau admirable. Le réseau admirable, c'est le lieu où justement est fabriqué le pneuma psychique à partir du pneuma vital, qui est une autre entité. Donc, c'est un réseau artériel, en fait, ce qu'on appelle le polygone de Willis aujourd'hui, qui est à la base du cerveau, qui est absolument central, disons, dans la physiologie de Galien. C'est une représentation, la représentation galénique, il faut le dire, qui, voilà, c'est ça le réseau admirable, c'est une représentation qui va perdurer hein, jusqu'à, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, hein, qui va traverser, pas le réseau admirable, mais la physiologie de Galien, puisque l'enseignement officiel de la faculté de médecine, la doctrine officielle jusqu'au XVIIIe siècle, c'est l'hippocratico-galénisme. Donc cette physiologie, finalement, ne va être mise en cause sérieusement qu'avec Descartes, mais va perdurer au-delà de Descartes. Donc la représentation galénique. On passe aux représentations cellulaires, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les représentations cellulaires ne sont pas issues de Galien. Il s'agit d'une représentation du cerveau qui est issue à la fois des pères de, enfin, qui est issue des pères de l'Église, ce qui peut paraître surprenant, mais il y a des textes qui nous expliquent, chez Némésius, Posidonius, Saint Augustin, etc., qui nous expliquent que le cerveau est compartimenté et que chaque compartiment est le siège d'une faculté. Alors ces compartiments se superposent grosso modo aux ventricules cérébraux. Vous avez des ventricules antérieurs, médians, anatomiquement parlant, et postérieurs, et un ventricule postérieur. Mais chacun de ces ventricules est siège d'une ou plusieurs facultés. Alors sur le devant, donc là, et la médecine arabe médiévale, bien sûr, va reprendre ça. Et c'est une représentation qui va dominer, avec la représentation galénique, le monde médiéval occidental. Donc vous avez des représentations cellulaires. Là, on a des représentations. Par exemple, celle d'Albert le Grand. Alors, vous reconnaissez ici le ventricule antérieur, la cellule antérieure, la cellule médiane et la cellule postérieure. Alors, vous ne voyez pas les inscriptions, mais en fait, la cellule antérieure est le siège de la sensibilité, des sensations. La cellule antérieure. Ah, pardon. Ah, ok. Pas de problème. Donc, la cellule antérieure, qui est le siège de la sensibilité, vers où convergent les nerfs, par exemple sensitifs, qui fabrique des images. Les images sont manipulées par l'intellect, qui siège dans la partie médiane. Et puis, les images résiduelles, en quelque sorte, sont stockées dans le troisième ventricule, qui est le ventricule, enfin, la troisième cellule, puisqu'il y a quatre ventricules et trois cellules en général. La troisième cellule, c'est la mémoire qui stocke les images. Donc, il y a une psychologie, en quelque sorte, qui se superpose à la représentation anatomique, très souvent dans les représentations cellulaires. Et elle se superpose tellement que, par exemple, dans la représentation de droite, où vous reconnaissez les trois cellules, vous voyez que les trois cellules communiquent en réalité. Donc, les images, en quelque sorte, passent du premier ventricule, sont élaborées dans la deuxième cellule, puis sont stockées dans la troisième cellule, et carrément, vous avez la communication qui est représentée. Alors, il y a de très nombreuses représentations dans les manuscrits médiévaux, dans les traités médiévaux, de ce cerveau particulier, de ce cerveau cellulaire. Et vous avez, regardez, vous avez à partir de la première cellule aussi le lien avec les organes des sens qui est représenté. Donc, c'est une représentation qui n'est pas une représentation anatomique. C'est une représentation physiologique qui est différente de celle de Galien, mais qui est tout à fait compatible avec celle de Galien, puisque le pneuma, vous pouvez considérer que le pneuma est élaboré ici, passe dans le second dans la seconde cellule, puis est stocké dans la troisième cellule également. Donc, il y a une sorte de compatibilité, et c'est la représentation, cette représentation galénique plus représentation cellulaire, c'est la représentation qui va dominer en Occident. Alors, c'est tellement peu anatomique que, dans certains cas, on a affaire à de simples schémas. Là, vous avez donc des schémas qui sont pratiquement renaissants. Et vous voyez que là, il y a davantage de cellules. Il y a des variantes dans la théorie cellulaire. Chaque auteur va amener sa petite modification. Ils ont sa petite variante à partir du schéma de base, qui est un schéma à trois cellules. Et nous passons donc au troisième type de représentation, les représentations anatomiques. Là, on se soucie de l'anatomie. Alors, on peut difficilement ne pas passer sur Léonard de Vinci, qui est un très grand anatomiste. Les représentations de Léonard de Vinci sont encore très inspirées à la fois de la théorie galénique, de la représentation galénique et de la représentation cellulaire, puisque si vous regardez ici donc le dessin de Léonard de Vinci, vous avez la représentation des trois cellules ici. Et vous avez les cellules qui sont... Alors, les ventricules sont représentés de façon tout à fait irréaliste, mais ils communiquent. Donc, c'est une représentation physiologique. Néanmoins, Léonard de Vinci fait des efforts en direction de l'anatomie pure. Là, vous avez des représentations des ventricules qui sont issues des techniques de moulage qu'il invente pour représenter les cavités des organes, mais ces représentations ne sont pas anatomiquement, malgré tout, exactes. Donc, il y a clairement quelque chose de mixte, à la fois physiologique et anatomique, dans les représentations de Léonard de Vinci. Et ensuite, bien sûr, commence la longue histoire de l'anatomie cérébrale, de Thomas Willis à Félix Vic-d'Azyr, donc jusqu'à la fin du XVIIIe, où là, les représentations deviennent de plus en plus précises, pour acquérir une qualité quasi photographique avec Félix Vic-d'Azyr à la fin du XVIIIe. Ensuite, on passera à la photographie, etc. On arrive au XIXe siècle. Donc, on ne va pas refaire, évidemment, cette longue histoire. Simplement signaler que les représentations anatomiques, l'histoire des représentations anatomiques comprend aussi l'anatomie microscopique. À la fin du XVIIe, lorsqu'apparaît le microscope, les micrographes, Malpighi par exemple, et Ruysch, examinent avec ces microscopes, qui sont en fait de grosses loupes pour nous, la surface par exemple du cortex. Malpighi considère que le cortex est constitué de petites glandes, donc ça c'est la théorie, c'est la représentation glandulaire du cortex, et non pas de cellules. Donc les cellules, c'est un concept du 19e, enfin bon, schématiquement. Et puis d'autres anatomistes, comme par exemple Frédéric Ruysch, considèrent que le cortex est constitué plutôt de vaisseaux. C'est la représentation vasculaire du cortex. Donc là, on a des représentations, des querelles autour des représentations anatomiques. Mais ma collègue Céline Quériché va peut-être vous en parler. Non, bon, alors, davantage. Ça, c'était des représentations anatomiques. Vous voyez, qui, en quelque sorte, enfin, il est commode de comprendre la succession des représentations en opposition les unes aux autres. Bon, ça peut être aussi un peu artificiel, mais c'est assez commode. Et voyez que là, les représentations anatomiques de la Renaissance réagissent contre les représentations physiologiques, veulent s'affranchir, en quelque sorte, des représentations physiologiques de type galénique ou de type cellulaire. Là, il y a un retour de la physiologie au XVIIe siècle, avec les représentations de René Descartes, où là, on ne parle plus de pneuma, on ne parle plus de cellules. Avec René Descartes, on parle d'esprits animaux. Donc, c'est la fameuse physiologie des esprits animaux qui est expliquée dans le Traité de l'Homme, dans la description du corps humain, dans différentes lettres, Descartes n'est pas anatomiste, il n'est pas médecin, mais il a une en quelque sorte une obsession, si on peut dire les choses comme ça. Il veut rompre avec justement cette physiologie du pneuma, cette physiologie galénique. Et il propose une sorte de physiologie alternative qu'on appelle la physiologie des esprits animaux, les esprits animaux étant générés dans les ventricules, enfin étant finalement stockés dans les ventricules. Donc il y a quelque chose d'assez complexe chez Descartes qui est à la fois qui renie effectivement, qui nie une tradition, mais en même temps qui utilise les éléments de cette tradition pour, en quelque sorte, fabriquer quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas une transition aussi brutale, Descartes, dans le domaine de la médecine, qu'on pourrait le penser. Voilà. Alors, évidemment, d'autres modèles physiologiques vont... Alors, vous avez encore ici le modèle de Descartes, et vous avez un élément central dans le modèle qui est cette fameuse glande pinéale, la glande pinéale. Alors, c'est H. La glande pinéale est absolument centrale, elle joue un rôle central. Là, vous avez par exemple une représentation dans le traité de l'homme. Vous avez toutes les impressions qui convergent vers la glande pinéale. Là, il s'agit d'un homme éveillé, dit dans le texte. Et en dessous, vous avez un homme qui est endormi, qui rêve, donc qui n'a plus toutes ces entrées, en quelque sorte, sensitives, mais qui a une activité cérébrale malgré tout, puisqu'il rêve. Vous avez donc la glande pinéale, ici, alors ça c'est une représentation, vous voyez que c'est tout à fait irréaliste, hein, d'un point de vue anatomique, mais Descartes ne s'intéresse pas tellement à l'anatomie. Ce qui compte, c'est la centralité de la glande pinéale. Notamment, et son rôle physiologique. Des représentations physiologiques vont réagir, vont en quelque sorte contester, venir remplacer celles de Descartes. Par exemple, au XVIIIe, on ne parle plus d'esprits animaux. Dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, hein, l'auteur de l'article sur le fluide nerveux nous explique que les esprits animaux sont périmés, etc. La mode est à la fibre. Et donc, la fibre, c'est en quelque sorte l'ancêtre, faut pas parler comme ça en histoire des sciences, mais disons le précurseur de la cellule. Donc, on pense que les tissus vivants sont constitués de fibres. Le cerveau ne fait pas exception. On a tous les mouvements de la pensée, les différentes manifestations de la pensée s'expliquent par des mouvements, non plus d'esprits animaux, ça c'est le mécanisme cartésien, mais plutôt des mouvements de fibres. Et on cherche à relier ces mouvements de fibres avec ce qu'on connaît, avec la chimie du temps, et avec la physique du temps, c'est-à-dire la chimie de Lavoisier et la physique de Newton. Donc ça donne des systèmes qui sont assez peu physiologiques, au sens où ils sont inspirés des autres sciences, ils utilisent des concepts des autres sciences, où finalement l'imagination est reine encore au XVIIIe siècle. Alors, je reviens. Finalement, les seules données positives, les seules données empiriques qui sont réellement développées à part l'anatomie, c'est la neuroanatomie. Ce sont les données neuroanatomiques comparées. C'est-à-dire qu'on compare, et encore là, on est au début du 19e, la neuroanatomie comparée commence aussi... au 18e, on compare les cerveaux des différents animaux de complexité croissante, on va dire les choses comme ça, sans parler d'évolution encore nécessairement, pour essayer, et aussi les cerveaux d'animaux à différents âges, donc de manière à essayer de comprendre le rôle des différentes parties. Par exemple, le cortex est plus développé chez les animaux supérieurs, donc le cortex doit être le siège de la pensée. Ça conforte l'idée que le cortex est le siège des fonctions psychiques, le siège de l'intelligence en quelque sorte. Ce n'est pas une idée nouvelle. Mais donc on raisonne quand même, on ne raisonne pas pour construire les représentations sur des expérimentations physiologiques qui sont largement impossibles jusqu'à la fin du 18e, mais plutôt sur des données de neuroanatomie comparées. Alors, la grande affaire du 20e, du 19e, c'est, ça c'est très connu, c'est le choc des représentations, représentations localisées ou délocalisées. Donc, la phrénologie, Franz Joseph Gall, promeut l'idée d'une phrénologie, c'est-à-dire d'une localisation des fonctions. Alors, le système phrénologique, ce n'est pas simplement la localisation des fonctions au niveau cortical. Il y a tout un système qui, d'ailleurs, va précipiter la chute de la phrénologie, puisque l'importance de chaque zone corticale est reliée à des bosses crâniennes. Et donc, l'examen du crâne permet d'avoir une idée de l'importance de chaque zone corticale, de l'importance fonctionnelle de chaque zone corticale. Bon, c'est un système que va combattre, par exemple, Pierre Flourens, à l'époque, qui a une représentation du cerveau, non pas en fragmenté, localisé, mais une représentation holiste ou holistique. C'est-à-dire, le cerveau fonctionne comme un tout. Alors donc là, on a affaire à deux types de représentations qui commencent à être générées par des expérimentations, des données expérimentales. Ça, c'est une caractéristique. C'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus au XIXe siècle. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de quelques expérimentations avant le XIXe siècle, mais disons que c'est le XIXe siècle qui est la grande période pour l'expérimentation. Alors, par exemple, effectivement, après la phrénologie, les querelles sur les localisations cérébrales vont occuper tout le XIXe siècle. Alors là, j'ai représenté quelques acteurs, donc les travaux anatomiques de Leray et Gratiolet, Broca, le fameux Broca, hein, qui localise l'aire du langage sur des données anatomopathologiques. Jackson, qui situe les aires motrices en suivant les crises d'épilepsie. Fritz et Hitzig, ça certainement mon collègue va en parler, qui par des expériences de stimulation chez le chien va localiser des régions motrices. Donc on a une représentation localisée ou localisationniste, si vous voulez, mais qui est cette fois-ci appuyée par des données expérimentales, anatomopathologiques, etc. Et jusqu'à la fin du 19e, on est à la fin du 19e siècle, le débat rebondit à chaque fois qu'on a des données expérimentales qui sont plus fines. Par exemple, David Ferrier s'oppose à Goltz au Congrès international de Londres en 1881 sur la même question. Le cerveau fonctionne-t-il de manière... les parties ont-elles une fonction spécifique ou le cerveau fonctionne-t-il comme un tout? Alors, il y a quelque chose qui est sur lequel les auteurs sont malgré tout à peu près tous d'accord, c'est que le réflexe semble le mécanisme fondamental du fonctionnement du système nerveux. Et le réflexe, c'est quelque chose qui, ça fait référence à la moelle, donc la moelle épinière qui paraît aux auteurs du 19e siècle plus accessible que le cerveau à l'étude expérimentale. Voilà pourquoi on s'est focalisé beaucoup sur le réflexe au 19e siècle, pour des raisons. Et de fil en aiguille, on s'est dit, puisque la moelle épinière semble anatomiquement une sorte de cerveau miniature, bon là, je vais vite, hein, et peut-être que physiologiquement, le réflexe, c'est l'élément fondamental du fonctionnement du système nerveux. Donc les réflexes vont être utilisés pour expliquer les fonctions simples et les fonctions complexes par combinaison de réflexes, d'où une autre représentation qui est la représentation sensorimotrice. Vous voyez, on avance, la représentation sensorimotrice qui est du cerveau, le cerveau sensorimoteur. Donc qui se fondent donc sur la physiologie du réflexe, Bell, Magendy, Müller, la neurologie, la neurophysiologie localisationniste dont on a déjà parlé, avec Broca, Jackson, Fritz et Hitzig, Ferrier, donc, dont j'ai parlé précédemment, Et puis la psychologie, ou plus exactement la psychophysiologie de l'association, qui va venir aussi conforter cette représentation sensorimotrice. Et là, il y a des auteurs comme Ribot ou William James qui vont adopter donc cette représentation. Et ce qui est important, c'est que du coup, eh bien, il faut étudier les voies réflexes, il faut étudier les voies cérébrales. Et une odologie, du grec donc odos, le chemin, ou étude systématique des voies nerveuses, devient alors nécessaire pour alimenter cette représentation sensorimotrice, pour lui donner en quelque sorte chair, pour lui donner corps. Évidemment, c'est encore largement un rêve. Et il faudra attendre, il faut pour cela, pour réaliser ce rêve, que déjà les bases anatomiques au niveau microscopique du cerveau soient établies. Et à la fin du 19e, il y a cette fameuse querelle entre les neuronistes, les partisans du neurone, avec à leur tête Santiago Ramón y Cajal, et puis Camillo Golgi, l'adversaire de la théorie du neurone, qui vont s'affronter donc sur cette représentation, sur cette anatomie microscopique. Et le débat ne va pas être résolu immédiatement, puisque Cajal et Golgi vont avoir le prix Nobel simultanément pour avoir, en défendant des théories différentes de la constitution microscopique du cerveau. Toujours est-il qu'avec simplement la synapse n'est pas visualisable à l'époque avec l'instrumentation en microscopie optique. Donc, mais néanmoins, avec Cajal, il est clair que l'odologie, l'étude des voies nerveuses, devient l'étude des connexions entre les neurones. Donc il y a ce mot de connexion, de synapse, en fait, qui est un concept de Sherrington, du physiologiste Charles Scott Sherrington. La synapse s'impose pour des raisons physiologiques. Lorsqu'on étudie les voies réflexes, donc je ne vais pas entrer là dans les détails, mais il est clair qu'à partir de là, la voie est ouverte pour une représentation connexionniste du cerveau. Donc on passe subrepticement d'une représentation sensorimotrice qui va perdurer encore. Ce n'est pas une représentation qui succède à l'autre nécessairement, les représentations peuvent coexister, mais jusqu'aux années 80, la représentation sensorimotrice du cerveau avec ses aires sensitives, ses aires motrices, va subsister. Mais il y a aussi cette représentation connexionniste qui a été largement permise par Cajal. Cajal qui améliore la technique de Golgi pendant toute sa vie, qui décrit des réseaux de neurones, de nombreux centres nerveux. Cette représentation connexionniste va recevoir l'appui théorique de Donald Hebb, c'est la fameuse synapse de Hebb, une synapse plastique. Donc je reviendrai si ça vous intéresse un peu plus tard. Et ces représentations plastiques vont à leur tour recevoir un support. Cette synapse de Hebb va recevoir un support, je dirais, au niveau biochimique, au niveau moléculaire, et ce sont, pour aller vite, donc les travaux de Eric Kandel sur l'aplysie. Vous avez une synapse là, qui est représentée avec ces composantes moléculaires. Donc là, on a une représentation qui est tout à fait connexionniste, on va dire. On peut débattre, il y a différents sens à ce mot connexionniste, disons, qui est fondé sur l'idée de connexion cérébrale. Il y a un autre débat au 20e siècle, c'est le conflit entre les représentations électriques ou chimiques. Les synapses, effectivement, il y a deux hypothèses au début du 20e, soit la communication, la synapse est électrique, les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques, le cerveau est une machine électrique, ou alors les synapses sont chimiques, deux possibilités théoriques. Alors les neurones, dans ce cas, communiquent entre eux par des signaux chimiques, les neurotransmetteurs, le cerveau devient une machine chimique. Donc vous voyez quand même deux représentations qui vont entrer en compétition pendant tout le XXe siècle. Chacun, les tenants de chacune des deux théories, de chacune des deux représentations, cherchant à valider chacune de leur côté, vous voyez, c'est un développement parallèle, l'une ou l'autre représentation, donc ça c'est une longue histoire, finalement qui se termine dans les années 50, où la théorie électrique va nettement entrer en régression par rapport à la théorie chimique, qui va posséder une valeur heuristique supérieure. C'est-à-dire que la théorie chimique, les neurotransmetteurs, si vous voulez, vont pouvoir expliquer l'action des médicaments, perspectives pharmacologiques, notamment les nouveaux médicaments, les psychotropes qui apparaissent dans les années 50, des perspectives physiologiques, la possibilité de cartographie fonctionnelle, donc d'écrire des voies chimiques. Donc là, on a une odologie qui se développe, mais une odologie chimique, d'autres perspectives également. On revient par exemple sur l'apprentissage et la mémoire, là on revient un petit peu à Kandel. Mais il faut savoir que cette dichotomie, enfin ce choc des représentations, aujourd'hui quand même est largement périmé. Donc ce sont des représentations périmées parce que les synapses électriques existent aussi dans le cerveau. Mais ça, on s'est rendu compte de ça seulement dans les années 60, 70, 60. Et l'enjeu pour les jusque-là était au fond à qui devait revenir l'étude du cerveau, où les neurosciences allaient devoir se construire. Dans le laboratoire de physique, après tout, il y avait l'électroencéphalogramme, le EEG, qui est une création de physiciens, ou dans le laboratoire de neurochimie. Et là, vous avez tous les neurologues, les biochimistes, tous les neurochimistes, les pharmacologues, etc., qui vont plutôt soutenir cette représentation. Donc derrière les représentations, il y a au XXe siècle, clairement, des enjeux, on va dire, sociologiques, de sociologie des sciences. Mais ça, on pourra y revenir. Donc ce n'est pas gratuit. Alors voilà, par exemple, dans les années 70, comment on explique l'action des nouveaux neuroleptiques par une activité au niveau de la synapse. Et puis voilà, chez le rat, la description de quelques voies chimiques. Donc c'est la représentation, évidemment, du cerveau chimique. Et puis Kandel, évidemment, on est en plein dans la représentation neurochimique. Alors, et l'animal dans tout ça, donc je termine. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'animal. Mais il faut voir que les premières explorations directes du cerveau humain sont représentées par les dissections anatomiques. Mais jusqu'à la Renaissance, la dissection est principalement limitée à l'animal. Principalement, je ne vais pas dire exclusivement. Mais quand même, jusqu'à la Renaissance, principalement à l'animal. Et ce sont les résultats de l'anatomie animale qui sont transposés à l'homme. Et ça, très tard, dans le domaine des neurosciences, enfin, dans le domaine de la neuroanatomie. Évidemment, c'est une anatomie qui est souvent inexacte. L'anatomie se développe donc seulement à partir de la Renaissance, l'anatomie humaine, et l'anatomie comparée, vous vous souvenez de ce dont on a parlé tout à l'heure, se développe seulement au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et là, on commence, effectivement, d'un point de vue anatomique, à répertorier les différences entre l'homme et l'animal, notamment entre l'homme et les grands singes, par exemple. On commence à prendre conscience. Et on commence à... Ceci dit, ça a été assez tardif, hein, les premières... Alors, il y a, sinon, l'approche anatomopathologique. Je parle là des approches directes du cerveau humain. Mais l'inconvénient des approches anatomopathologiques, c'est qu'on a affaire à un tissu mort, si vous voulez. Donc, d'un côté, on a affaire à un tissu animal, un objet animal, pas satisfaisant, avec la dissection anatomique. L'anatomopathologie, c'est sur du tissu mort. Alors, il y a l'expérimentation humaine. Mais l'expérimentation humaine sur le cerveau humain est extrêmement difficile. Et en fait, elle commence véritablement avec la neurochirurgie au XXe siècle, les expériences de Penfield, elles commencent sérieusement seulement à cette époque. Enfin, donc, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, l'approche directe du cerveau humain est extrêmement difficile, a été extrêmement tardive. Donc l'animal a joué un rôle absolument central dans l'établissement de nos connaissances sur le cerveau humain, d'un point de vue historique. Alors, il y a, au XXe siècle, les enregistrements non invasifs, où là, l'approche directe se fait de façon beaucoup plus massive, avec l'électroencéphalogramme, d'abord, et bien sûr, aujourd'hui, toutes les techniques de neuroimagerie. Mais ce sont des techniques tout à fait récentes. Les nouveaux outils de la neuroimagerie datent des années 70, et notamment le troisième, donc l'imagerie par résonance magnétique, avec ses variantes aussi, ses variantes fonctionnelles, donc l'IRM fonctionnel, et puis des versions plus récentes encore de l'IRM, comme l'IRM de diffusion. Alors, il y a des tas de techniques maintenant très très sophistiquées qui permettent effectivement l'approche directe et fonctionnelle du cerveau humain. Et ceci va dans le sens, à mon avis, d'une représentation connexionniste. Donc je pense que c'est cette représentation qui est la représentation qui domine pour l'instant, qui domine aujourd'hui, et peut-être, et qui a certainement succédé à la représentation sensorimotrice. Évidemment, les représentations connexionnistes, il y en a un certain nombre. Alors aujourd'hui, peut-être... Les représentations sont à la fois modulaires, avec un réseau distribué et plastique. Les réseaux sont labiles. Bon, enfin, là, on entre dans la science d'aujourd'hui. Je ne vais pas empiéter sur ce qui va être dit par les scientifiques. Et peut-être le dernier avatar, donc je terminerai là-dessus, de cette représentation connexionniste, c'est la connectomique, qui est l'idéal d'une représentation totale, un petit peu comme la génomique, des connexions cérébrales. Mais évidemment, là, on est dans la science qui se fait, et puis on est dans quelque chose peut-être qui est largement utopique, mais on pourra en discuter, si vous voulez, avec les spécialistes, vraiment. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup de cette introduction. Des questions ?
Mohamed, Georges après. Georges, pardon. Voilà.
Alors avant tout, merci beaucoup pour cette excellente introduction de la journée. Je pense que tu as pu aborder et éveiller les intérêts sur plusieurs points qui seront abordés. Je te remercie beaucoup pour ça. Alors, comme tout conférencier, quand on prépare ces diapositives, et c'est un déchirement, je sais ce que c'est, on va devoir couper à la serpe les diapes en disant « mais ça, j'ai pas le temps, ça, j'ai pas le temps, et ça, je ne pourrais pas le faire. » Parce qu'effectivement, le temps est limité, qu'on a des choix à faire. Mais ayant dit ça, il y a quand même une petite place pour René Couteau quelque part. Peut-être entre Cajal et Hubble, parce qu'avec ses travaux de microscopie électronique des années 50, je pense que c'était chez toi, à Paris 6, il a tout de même démontré d'une manière assez claire la discontinuité de la synapse neuromusculaire et les magnifiques photos qu'il a pu produire avec les équipements de bord des années 50 en microscopie électronique sont toujours un cas d'école. Mais je comprends. Et puis, ce n'est pas à toi que je vais le dire, mais où est Charcot ?
C'est absolument évident, c'est dans les années 50 qu'on visualise en fait la synapse et tous les travaux de microscopie électronique vont conforter donc la preuve de l'existence de la synapse, elle est d'abord physiologique avec Sherrington, mais elle n'est pas morphologique, et c'est seulement effectivement dans les années 50 que la preuve devient aussi morphologique avec des travaux comme ceux de Couteau. Effectivement, il y a aussi un autre auteur, avant de répondre sur Charcot, qui aurait pu être mis et qui c'est absolument central, c'est Penfield, le fameux homunculus sensorimoteur de Penfield, qui correspond à une représentation sensorimotrice en fait. C'est typiquement la représentation sensorimotrice, mais bon, voilà, je ne vais pas plus loin. Alors Charcot, que dire sur Charcot?
Quand je dis où est Charcot, c'est où est-ce que tu le places?
Charcot est un des, à mon avis, un des promoteurs de la représentation sensorimotrice, puisque Charcot va travailler, va critiquer par exemple le modèle de Jackson sur l'épilepsie. Charcot, en tout cas, est localisationniste, sans aucun doute, va travailler aussi la question du langage avec des représentations, effectivement, qu'on aurait pu fonctionnelles des aires du langage. Donc, Charcot se situe à la charnière, je dirais, des représentations localisationnistes et sensorimotrices, qui ne sont pas du tout incompatibles d'ailleurs. Y a pas nécessairement... Il y a des représentations incompatibles dans cette histoire, mais il y a des représentations tout à fait compatibles. Et Charcot, voilà, se situe juste après Broca, à l'époque de James, dans cette mouvance du localisationnisme, je dirais, et de la sensorimotricité. Semble.
Georges. À l'heure du triomphe absolu de la synapse chimique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste des vieilles synapses électriques chez l'homme d'une part, et puis je vois une autre possibilité chez les animaux qui n'ont pas de synapse, par exemple les didermiques.
Oui, alors bon, le tout synapse chimique, c'est quelque chose qui est très remis en question aujourd'hui. Mais simplement, on a une vision exclusive dans les années 60 des choses à cause de cet enjeu. Mais là aujourd'hui, c'est pas à toi, évidemment, bien sûr qu'il faut apprendre ça, mais on a commencé, disons, à détecter les synapses chimiques chez les crustacés, je crois, dans les années 60, les travaux japonais. Donc il y a des synapses chimiques, des synapses électriques chez les crustacés. Il y a aussi des synapses électriques chez l'homme, dont on étudie le rôle fonctionnel. Et puis, il y a des communications non chimiques, non synaptiques, donc entre les neurones, les cellules gliales, etc. Donc, le monde de la communication au niveau cérébral, c'est un monde où il y a de la diversité, où il y a de la biodiversité. Les synapses électriques correspondraient, d'après mes lectures, mais je n'ai pas travaillé évidemment cette question scientifiquement, mais à des formes de communication primitives et rapides, d'où leur présence chez, en plus grand nombre, disons, chez les animaux inférieurs, on pourrait dire inférieurs, c'est les animaux au bas de l'échelle, plus bas dans l'échelle phylogénétique. Donc des formes plus... parce que les membranes sont plus proches, elles sont presque collées, pour dire les choses. Elles sont collées, carrément. Et donc la transmission peut être plus rapide. Mais elles ont un rôle, elles auraient un rôle fonctionnel aussi chez l'homme. Bon, je pense que c'est un sujet de recherche actuel, ça, il me semble.
Sans, j'avais une question naïve
sans vouloir
à poser.
Interférer trop. D'accord.
Vas-y.
Oui. En fait, les synapses électriques sont aussi des synapses chimiques, puisque les deux cellules étant collées l'une contre l'autre à travers des canaux, il y a échange de molécules chimiques d'un neurone à l'autre, mais cet échange est beaucoup plus rapide parce qu'on a perdu l'espace synaptique, et donc effectivement, la transmission est beaucoup plus rapide et beaucoup plus synchrone. Mais c'est des messagers secondaires, mais ce n'est pas des neurotransmetteurs, mais on est dans les messagers secondaires pour les nommer le calcium, l'impicyclique. Donc de fait, les synapses électriques sont aussi chimiques, mais on perd l'espace synaptique.
Oui, ce qui est important, c'est de voir que là, on raisonne en termes de modèle, effectivement, mais au fond, cette dichotomie représentation chimique, représentation électrique, elle devient de fait périmée du fait que tout signal électrique, quelque part, a un fondement moléculaire, en définitive, effectivement, ce qui...
Je voulais poser une question un peu naïve. Je me disais que à chaque fois qu'on découvrait, c'est un petit peu basique, les différentes théories, est-ce qu'on cherchait à trouver les différentes maladies du cerveau? Est-ce qu'à partir de quel moment s'est dit telle théorie va être possible pour guérir des maladies. Est-ce qu'on pointait cela ou
Alors, pour guérir, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque époque, à chaque représentation, il y a parallèlement des théories pathogéniques hein, pour expliquer les maladies. Par exemple, dès l'origine, hein, dès l'Antiquité. Alors, par exemple, dans le cas des représentations cellulaires, comme la dernière cellule est censée, vous savez, la cellule la plus postérieure, au moins dans la représentation médiévale, c'est le siège de la mémoire, on a du coup essayé de rapprocher les troubles de la mémoire à une modification, enfin une altération anatomique de la dernière cellule. Et il y a dans les encyclopédies médiévales, il est mentionné à plusieurs reprises des cas hein, où des fractures de la postérieure, du cerveau postérieur correspondent à des troubles de la mémoire. Mais là, il ne faut pas se tromper. Il ne s'agit pas d'un raisonnement inductif. Il s'agit d'une justification a posteriori par l'empirique, une justification empirique d'un a priori doctrinal qui est celui de la doctrine cellulaire. Donc, il ne faut pas inverser. Bon. Et donc, on rapproche la pathologie du normal, mais abusivement, en quelque sorte, si on raisonne d'un point de vue scientifique, disons. Alors, ensuite, bien sûr, à chaque représentation, on va avoir, par exemple, le cas le plus connu, c'est le langage, les troubles. Les premières localisations du langage effectives, des aires du langage, Broca, se sont faites chez les aphasiques. Donc là, c'est la pathologie directement qui... Alors, la thérapeutique, c'est plus complexe. En neurologie, pendant très longtemps, Alors, on pourrait reparler de Charcot, etc. Mais les traitements en neurologie n'ont pas suivi du tout les découvertes, si vous voulez. Les progrès étaient très lents. Hein. Ça n'est qu'en fait au lendemain de la Seconde Guerre hein, que vraiment on dispose d'outils pour la maladie de Parkinson, pour l'épilepsie, d'outils thérapeutiques. Alors, les épileptiques, les anti-épileptiques, c'est un peu avant, mais il n'y a pas grand-chose au niveau du traitement des maladies neurologiques et psychiatrique avant la Seconde Guerre, il faut quand même le dire. Bon, on a des outils, quelques outils. Il y a des thérapeutiques de choc, par exemple, pour les psychoses. Mais la neuropharmacologie, la psychopharmacologie, c'est après la Seconde Guerre, en fait. Justement, la théorie de la neurotransmission chimique va apporter un support théorique pour expliquer l'action de ces médicaments. Va être représenté un cadre théorique idéal. Et on va s'exciter là-dessus, à ce moment-là.
Donc Céline proposait de... Oui, parce qu'on est en retard, mais c'est pas grave. Hein. Donc on va faire la pause maintenant, et d'un quart d'heure. Et comme ça, on va rattraper le temps perdu. Merci beaucoup, Jean-Claude, c'était passionnant. Merci, à tout à l'heure.